Ok, décortiquons ça. Aujourd'hui, on entame une plongée au cœur d'un sujet qui est vraiment omniprésent.
Ouais, on ne voit que ça en ce moment, c'est clair.
Exactement. On connaît tous l'engouement actuel autour du collagène. C'est un peu devenu la star incontestée des rayons bien-être et de toutes les discussions sur la longévité. Mais, et c'est important de le préciser d'emblée, ce qui nous intéresse dans cette exploration aujourd'hui, c'est pas du tout de survoler les promesses marketing de surface.
Non, surtout pas. Parce que pour quiconque s'intéresse sérieusement à la biologie humaine ou même à la nutrition avancée, le discours habituel qu'on entend partout peut sembler, comment dire, un peu léger.
Un peu creux, ouais. C'est pour ça qu'on s'appuie aujourd'hui sur une ressource très solide, le guide du collagène. C'est un dossier comparatif exhaustif qui dépasse largement le simple vernis cosmétique.
C'est ça. Notre mission pour cette analyse, elle est très claire. On veut vraiment plonger dans la mécanique de précision de cette protéine, comprendre un peu l'ingénierie tissulaire qu'elle sous-tend.
Et surtout, faire le tri, parce que le marché est complètement saturé. Donc, l'idée, c'est de décrypter les critères techniques qui différencient réellement les options de complémentation. Fini les généralités, on entre dans le vif du sujet.
Et honnêtement, cette approche clinique, elle est super rafraîchissante. Il faut bien avouer que l'industrie du bien-être a une fâcheuse tendance à, tu sais, transformer des réalités biologiques hyper complexes en petits slogans simplistes.
Ah oh oui, la fameuse pilule magique.
Voilà, exactement. Alors que quand on examine les données de référence de ce guide, on comprend très vite qu'on ne parle pas d'un ingrédient magique, on parle de la protéine la plus abondante du règne animal, tout simplement.
C'est quand même fou quand on y pense. Un tiers de toutes les protéines de notre corps.
C'est massif. C'est vraiment la composante structurelle par excellence. Donc comprendre son fonctionnement, c'est comprendre comment notre architecture interne est, en fait, maintenue sous tension, comment elle résiste aux chocs quotidiens et surtout...
Surtout comment ça se dégrade avec le temps. C'est un peu le cœur du problème.
Absolument. L'enjeu de notre discussion, c'est d'étudier l'évolution de nos tissus conjonctifs face à cette usure biologique inévitable.
Alors pour poser les bases de cette fameuse architecture, je pense qu'il faut d'abord visualiser de quoi on parle vraiment au niveau moléculaire. On a souvent tendance à utiliser des analogies un peu basiques, tu sais.
Du genre la charpente en bois d'une maison.
Ouais, voilà. C'est pas mal pour l'idée de soutien, mais pour être anatomiquement précis, la réalité est beaucoup plus dynamique que ça. Une bien meilleure image, d'après moi, ce serait celle des câbles de tension d'un pont suspendu.
Ah, j'aime beaucoup cette image, elle est très juste.
Parce que le collagène, c'est une protéine fibreuse. Elle est organisée en une structure de triple hélice qui est franchement extrêmement robuste. Et ces câbles biologiques s'entrelacent pour former une vraie matrice.
Une matrice qui donne non seulement de la force de traction, mais aussi une certaine flexibilité, ce qui est crucial.
C'est exactement ça. C'est ce qui permet à nos tissus conjonctifs, donc la peau, les os, les tendons, les ligaments, de faire leur travail. C'est ce qui permet par exemple à un tendon de supporter tout le poids du corps quand on saute, sans claquer.
Ou à la peau de s'étirer quand on sourit et de reprendre instantanément sa forme initiale. L'analogie du pont suspendu illustre parfaitement cette notion de stress mécanique. Ces câbles sont littéralement conçus pour absorber et dissiper les forces.
Mais tout pont nécessite de la maintenance, hein.
Et c'est là qu'on touche au point sensible. Ce qui est fascinant ici, c'est d'observer ce qui se passe quand la maintenance de ce pont commence justement à faire défaut. Le problème central qu'on aborde, c'est le facteur temps.
Le fameux déclin naturel.
Oui. La production endogène, donc la capacité de notre propre organisme à fabriquer ses fibres, commence à décliner de manière mesurable, bien plus tôt qu'on le pense.
Vers la fin de la vingtaine, c'est ça?
Dès la fin de la vingtaine, oui. On observe une perte qui est estimée à environ 1% par an. Et il faut bien comprendre que ce déclin silencieux, ce n'est pas une maladie, c'est un phénomène de sénescence programmée.
C'est le corps qui suit son cours normal, en fait.
Voilà. Sauf que les conséquences forment une véritable cascade d'événements structurels. Les câbles s'affinent, la matrice perd en densité, et tout ce grand réseau de soutien global commence à s'affaisser sous le simple poids de la gravité et de l'usure quotidienne.
Et ce rythme d'1% de perte par an, ça paraît minime sur le papier. 1%, on se dit que c'est rien.
Sur une seule année, oui, ça passe inaperçu.
Mais l'effet cumulé sur une décennie, c'est colossal. Et ça déclenche des signaux de fatigue un peu à tous les étages de l'édifice. À l'extérieur, évidemment, ça se traduit par les rides, la perte de fermeté, le truc que tout le monde cherche à cacher.
La partie visible de l'iceberg.
Exactement. Mais à l'intérieur, c'est la mécanique même des fluides et des frottements qui est altérée. Et ça entraîne l'inconfort articulaire. Et le point crucial à retenir ici, c'est que la fabrication de ces fibres, c'est un processus naturel d'une complexité inouïe.
C'est une vraie usine métabolique, oui.
Et cette usine a besoin de conditions très spécifiques pour assembler cette fameuse triple hélice. C'est pas un mécanisme qui fonctionne tout seul par magie. La synthèse dépend de la biodisponibilité de certains acides aminés clés.
Comme la glycine, la proline, l'hydroxyproline.
Absolument. Ainsi que de cofacteurs essentiels comme la vitamine C. Si un seul de ces éléments vient à manquer sur la chaîne de montage, pam, l'usine tourne au ralenti.
Sans compter que cette usine interne ne produit pas qu'une seule catégorie de câbles. C'est hyper réducteur de parler du collagène au singulier. En réalité, la littérature scientifique identifie près d'une trentaine de types différents dans le corps humain.
30 types, c'est énorme!
Et chacun a une architecture et une fonction biomécanique bien distinctes. Mais bon, pour simplifier la comprimation globale, il y a surtout trois principaux types qui méritent notre attention aujourd'hui.
Le type I étant le grand favori, je suppose.
C'est le plus massif, oui. Il représente à peu près 90% du collagène de tout le corps. C'est lui qui structure la peau, les tendons, les os. Il offre une résistance extrême à la tension.
Et pour les articulations, c'est un autre type.
C'est le type 2. Lui, il forme des réseaux un peu plus lâches qui retiennent l'eau. C'est la base du cartilage. C'est vraiment notre amortisseur naturel. Et enfin, on a le type 3 qui travaille très souvent en tandem avec le type 1, mais qu'on va retrouver davantage dans les tissus plus élastiques, comme les muscles et les vaisseaux sanguins.
Cette distinction entre les types, elle est fondamentale, parce que c'est ça qui explique la diversité de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Et ça nous amène directement au grand débat qui divise souvent et que notre dossier décortique d'ailleurs très bien.
Le fameux duel entre collagène marin et bovin.
Exactement, le grand match. Sur un marché aussi saturé, on cherche toujours à identifier un vainqueur absolu, genre quel est le meilleur. Pourtant, l'analyse montre que la question, c'est pas de savoir lequel est universellement supérieur.
Non, ça n'aurait aucun sens d'un point de vue biologique. L'idée, c'est de comprendre la correspondance entre la source de la protéine et l'objectif précis qu'on vise. La bio-ingénierie derrière chaque source présente des profils d'acides aminés qui vont différer de façon très subtile.
Et ces subtilités font toute la différence.
Poussons un peu l'analyse là-dessus. Le collagène marin, qui est généralement extrait des écailles et de la peau des poissons, il a une particularité moléculaire très intéressante. Son processus de transformation aboutit souvent à des peptides qui sont de plus petite taille.
Ce qu'on appelle un faible poids moléculaire.
Tout à fait. Et sur le plan cinétique, ça change tout. Ça veut dire que ces molécules franchissent beaucoup plus rapidement la barrière intestinale pour rejoindre la circulation sanguine. Et en plus, le profil marin est très majoritairement composé de collagène de type I.
Ce qui explique pourquoi il est autant plébiscité pour la peau.
Oui, pour tout ce qui touche à la régénération cutanée et à la matrice osseuse. Son taux d'assimilation super rapide en fait vraiment l'outil de choix quand on veut cibler l'enveloppe extérieure du corps.
D'un autre côté, le profil du collagène bovin va offrir une approche structurelle plus, disons, globale. Extrait des peaux bovines, il va fournir une combinaison hyper riche en collagène de type 1 et de type 3.
Et cette synergie I et 3 est géniale pour les muscles.
Exactement. C'est particulièrement pertinent pour la récupération musculaire, pour le soutien des vaisseaux sanguins et vraiment pour la réparation des tissus conjonctifs profonds. C'est le candidat idéal pour l'intégrité des fascias et toute la mécanique interne lourde.
Le choix doit donc être purement stratégique, en fait. Quelqu'un qui cherche à optimiser la densité de son derme et ira naturellement vers le marin, mais un athlète qui veut consolider ses tendons après l'effort trouvera un bien meilleur allié dans le bovin.
L'objectif, c'est juste de fournir à notre propre usine les bons matériaux pour le bon chantier.
Exact. Et il faut aussi intégrer une notion capitale ici, c'est le concept d'hydrolyse. Parce que, qu'il soit marin ou bovin, le collagène, à l'état brut, natif, c'est une macromolécule qui est beaucoup, beaucoup trop volumineuse pour être absorbée par notre système digestif.
Si on l'avale tel quel, il ne se passe rien.
Non, le corps va simplement la détruire pendant la digestion et l'éliminer sans pouvoir en tirer le moindre profit. C'est pour ça que l'industrie utilise l'hydrolyse enzymatique. Ça permet de découper cette très longue chaîne en tout petits fragments.
Les fameux peptides de collagène.
C'est ça. Ce processus technologique vient déverrouiller la biodisponibilité de la molécule. Et ça permet aux acides aminés d'être acheminés directement jusqu'aux fibroblastes, nos cellules spécialisées qui vont relancer la production naturelle.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois que ces peptides atteignent leur cible, les résultats qui sont documentés sur, on va dire, l'esthétique de l'intérieur sont remarquables.
La littérature est assez bluffante là-dessus.
Oui, on commence très souvent par regarder l'impact cutané. L'apport régulier de ces éléments de construction a vraiment démontré une capacité à relancer la machine de l'intérieur. Le dossier liste des effets mesurables sur l'atténuation des rides, l'augmentation de l'élasticité, le retour de la fermeté.
Mais ce qui retient surtout l'attention dans ces analyses, c'est vraiment l'accent mis sur l'hydratation et l'éclat. Ce sont des paramètres qui dépendent de la solidité du tissu, certes, mais aussi de sa capacité à retenir les fluides.
Tout à fait. Et cette capacité de rétention nous amène à examiner une synergie biochimique redoutable qui est mise en avant dans le guide. L'association du collagène avec l'acide hyaluronique.
Ah oui, le duo parfait. Pour bien saisir la mécanique de ce duo, on peut imaginer la peau comme un matelas de haute technologie.
J'aime bien cette idée de matelas.
Le collagène, ce seraient les ressorts métalliques, ceux qui assurent le rebond et la structure globale du matelas. Et l'acide hyaluronique, de son côté, il va agir comme la mousse à mémoire de forme, qui vient remplir tous les espaces entre ces ressorts.
Parce que c'est une molécule qui attire l'eau, non?
Une molécule très hydrophile, oui. Elle est capable de retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Et la logique est simple. Si on ne fournit que la mousse mais pas les ressorts, le matelas s'affaisse complètement.
Et à l'inverse, juste les ressorts sans la mousse, le matelas devient super rigide et manque de volume.
Exactement. En combinant la réparation de la structure fibrillaire avec une hydratation moléculaire profonde, on crée un environnement qui est juste optimal pour la prolifération cellulaire au niveau de la peau.
La logique est implacable pour le derme, c'est sûr. Mais l'impact de ce renforcement de la matrice ne s'arrête évidemment pas à la surface de la peau. Le réseau de soutien concerne aussi ce qu'on appelle les fanères, donc les cheveux et les ongles.
La mécanique est très similaire d'ailleurs.
Complètement. C'est basé sur la structure et le renforcement. Nos follicules pileux et la matrice de nos ongles sont des petites usines qui sont très gourmandes en acides aminés pour pouvoir produire de la kératine.
Et la proline est cruciale ici.
C'est ça. En fournissant une abondance de proline, qui est un des acides aminés principaux qu'on trouve dans les peptides de collagène, on offre au corps les blocs de construction directs pour synthétiser cette kératine. Le résultat qu'on observe, ce sont des cheveux qui gagnent en force, en diamètre, et des ongles qui arrêtent d'être cassants pour devenir vraiment denses et résistants.
C'est vraiment une restauration de l'intégrité structurelle à tous les niveaux périphériques. Mais si on relie ça à une vision plus globale de la longévité, cette restauration périphérique nous invite à regarder ce qui se passe plus en profondeur.
Au cœur même de notre squelette.
Oui, l'analyse opère ici un virage fondamental, je trouve. On quitte l'aspect purement esthétique pour s'attaquer à la biomécanique pure et dure, les articulations. La dégradation du collagène de type 2 au niveau des cartilages, c'est vraiment le point de départ d'énormément de troubles liés à la mobilité.
Parce que le cartilage se répare très mal de base.
Très mal et très lentement, oui, parce qu'il n'est pas irrigué par des vaisseaux sanguins. Donc, lorsque sa matrice s'affine avec l'âge, l'amorti diminue, les os finissent par se rapprocher et inévitablement, le frottement génère une inflammation locale chronique.
Et ce frottement, c'est ce qui se traduit au quotidien par cette fameuse sensation de raideur matinale, cette perte d'amplitude dans les mouvements et au final la douleur.
Personne n'y échappe vraiment avec le temps.
L'enjeu de la complémentation dans ce contexte, il dépasse de très loin l'optimisation cosmétique. L'apport en peptides spécifiques vise vraiment à stimuler les chondrocytes, donc les cellules du cartilage, pour qu'ils relancent la synthèse de la matrice extracellulaire.
On cherche à redensifier le coussin amortisseur, en fait.
C'est ça. On s'attaque directement à la friction mécanique. C'est une démarche pour préserver le capital mobilité de l'individu. Intégrer cette logique à une routine nutritionnelle, c'est un investissement dans sa propre capacité à se mouvoir sans restriction sur le long terme. On comprend tout de suite mieux pourquoi ce sujet résonne autant dans les milieux sportifs.
Ou chez n'importe qui s'intéressant au vieillissement actif, finalement. Et la conjonction de tous ces bénéfices, allant de la peau aux articulations, ça explique complètement l'explosion vertigineuse du marché mondial des compléments.
Un marché qui est devenu un vrai labyrinthe.
Un chaos total, on peut le dire. Cette abondance de l'offre s'accompagne d'une complexité folle pour le consommateur. C'est tellement facile de se perdre au milieu de toutes ces allégations santé, des dosages complètement opaques ou des formulations parfois un peu fantaisistes.
C'est là toute la valeur d'une ressource d'évaluation comme le guide qu'on étudie. Il s'attache vraiment à filtrer tout ce bruit ambiant. La démarche, c'est d'imposer des standards d'évaluation très stricts pour séparer la vraie innovation scientifique du simple marketing opportuniste.
Et on parle de critères très pointus. Il ne suffit pas de coller le mot « collagène » sur une étiquette avec un beau packaging pour garantir un effet biologique réel. Les analyses sérieuses et transparentes vont d'abord se concentrer sur la qualité de l'extraction.
Et sur l'origine de la matière première.
Toujours. Il faut garantir l'absence de métaux lourds dans le collagène marin, par exemple, ou de résidus hormonaux dans le bovin. Ensuite, la composition elle-même est scrutée à la loupe.
Oui, le fameux poids moléculaire dont on parlait tout à l'heure.
Exactement. Est-il suffisamment bas ? Généralement, on cherche quelque chose autour de 2000 Dalton pour assurer une absorption intestinale vraiment optimale. Et puis, l'efficacité de la formule globale est évaluée. Y a-t-il la présence de cofacteurs ?
La vitamine C.
Sans laquelle, on le rappelle, la synthèse interne tourne tout simplement à vide. C'est vraiment ce niveau de détail technique qui doit servir de boussole au consommateur.
Mais le respect de cette exigence technique est primordial quand on parle d'ingérer des composés qui sont destinés à modifier la structure même de nos tissus.
Cela soulève d'ailleurs une question importante concernant la responsabilité et l'individualisation des pratiques. Notre ressource d'études intègre, et c'est tout à fait logique, une clause de non-responsabilité stricte.
Oui, c'est crucial de le rappeler, ces analyses aussi poussées soient-elles relèvent de l'information nutritionnelle, ce n'est en aucun cas de la prescription médicale.
Chaque individu a sa propre biologie, ses propres variables, que ce soit les antécédents médicaux, les allergies croisées possibles, ou même la capacité d'absorption intestinale qui varie d'une personne à l'autre. La consultation d'un professionnel de santé reste vraiment le seul moyen d'aligner ces données scientifiques avec un métabolisme individuel.
C'est la seule façon de garantir une approche à la fois sûre et réellement efficace. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au terme de cette exploration ? Si l'on prend un peu de recul sur toutes les données techniques que nous avons assemblées aujourd'hui, le panorama est impressionnant.
Il remet vraiment les choses en perspective.
Le collagène s'affirme bien, bien au-delà de son image d'actif anti-âge un peu à la mode. Il représente littéralement la fondation mécanique de l'organisme humain. Cette matrice fibreuse, qui maintient l'intégrité de nos tissus, est soumise à une obsolescence naturelle inéluctable.
Ce fameux 1% par an.
Ce ralentissement métabolique, c'est le fil rouge qui relie des symptômes qui, en apparence, sont très différents. De la perte de tension d'un derme fatigué, à la fragilité d'un ongle, jusqu'à la friction inflammatoire d'une articulation usée. La supplémentation, qu'elle exploite les peptides légers d'origine marine ou bien la robustesse d'une matrice bovine, elle propose une stratégie de compensation fascinante.
C'est une tentative très pragmatique de fournir à notre usine biologique les matériaux précis dont elle a besoin.
Pour contrecarrer son propre déclin et ainsi préserver notre enveloppe protectrice et notre liberté de mouvement.
Et ce niveau de contrôle sur notre propre dégradation matérielle pousse inévitablement à une réflexion plus profonde. En étudiant la mécanique complexe de ces types de collagènes et leur impact omniprésent, on prend conscience d'un paradoxe assez étonnant.
Lequel ?
Eh bien, l'être humain, malgré toute sa sophistication neurologique et évolutive, repose fondamentalement sur la tension physique d'une seule famille de protéines. Pensez-y. Du maintien de notre posture bipède jusqu'à la souplesse des artères qui irriguent notre cerveau, tout dépend de l'intégrité de ce maillage microscopique.
Un maillage qui est programmé par défaut pour s'effilocher.
C'est ça la fragilité fascinante de notre biologie. L'ingénierie nutritionnelle actuelle nous permet déjà de ralentir ce processus, de compenser les pertes et de relancer partiellement la production cellulaire. Mais cela ouvre une perspective vertigineuse pour les décennies à venir. Si la science parvient aujourd'hui à retarder l'usure de nos câbles de tension via des peptides hydrolysés, jusqu'à quel point la bio-ingénierie de demain sera-t-elle capable de pirater l'horloge, même de nos fibroblastes ? Ne sommes-nous qu'au balbutiement d'une ère où le vieillissement mécanique, cette usure que l'on pensait inéluctable, deviendra une simple variable biologique que l'on pourra recalibrer à volonté ?